Bonjour tout le monde. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Quand Jésus dit, je suis venu pour abolir la loi et les prophètes, je ne sais pas si ça vous parle. La loi et les prophètes. La loi et les prophètes, en fait, ça désigne tout l'Ancien Testament. Dans les Bibles blanches, là, c'est 644, 614 pages exactement, à peu près une trentaine d'auteurs. Qui couvre 1500 ans d'histoire. Et bon, peut-être que pour certains d'entre nous, c'est un peu rasoir. Pour d'autres, ça fait un peu peur. Ça parle de sacrifices, des histoires parfois un peu qui font peur. Mais pour les Juifs, c'est leur trésor. Qu'est-ce que c'est pour nous? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Si Jésus est notre sauveur et si Jésus dit « Je suis venu pour accomplir la loi », qu'est-ce que c'est pour nous? Et j'aimerais vous dire que cette page, cet Ancien Testament, c'est la loi et les prophètes, c'est comme cette lettre d'amour de Dieu pour nous et pour l'humanité aujourd'hui. Une lettre d'amour. Même si elle a besoin d'être un peu décodée et expliquée, c'est une lettre d'amour pour toi. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Ah, je ne sais pas si certains ont connu ça dans le temps. Quand on était amoureux de quelqu'un, on écrivait une lettre. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça dans la salle? Ah, il y en a qui ont écrit encore des lettres aujourd'hui. Ouais, peut-être. Et une fois qu'on avait écrit la lettre et qu'on l'avait envoyée, il fallait attendre. Attendre la réponse de la personne de l'être aimé. Et qu'est-ce que ça pouvait être long? Ce sentiment d'attente. Et parfois juste avec WhatsApp, ça marche aussi. Hein. Je me rappelle quand je fréquentais Chloé, au tout début, j'envoyais un texto et 2 heures après, elle ne m'a toujours pas répondu. Est-ce que c'est fini? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? L'attente de la réponse de l'être aimé. Et ce sentiment d'attente, quand on écrit une lettre, quand on écrit WhatsApp, on peut la vivre aussi à une autre échelle, à l'échelle d'une vie. Quand viendra la personne qui enfin comblera ce vide dans mon cœur et qui remplira mon âme de bonheur? On peut l'attendre 10, 15, 20 ans, cette personne-là. L'attente de l'être aimé. Et peut-être que nous sommes en train d'attendre ce matin l'être aimé. Peut-être que nous sommes en train d'attendre autre chose. Peut-être que en ce moment, rien ne va. C'est la galère. Et on attend quelque chose qui va venir nous sortir de là. Quelque chose qui viendra ramener un peu de soleil dans ce ciel bien gris. Je viens du Nord. On dit que dans le Nord, on a le soleil dans le cœur parce qu'il fait tout le temps gris. C'est pas vrai. Des fois, ça nous fait déprimer aussi. L'attente, ce sentiment d'attente. C'est exactement ce que vivaient les Juifs. Et pour vraiment rentrer dans cette phrase que Jésus a dit, je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes, j'aimerais premièrement nous poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'aimerais nous raconter une histoire pour voir pour eux, pour le peuple juif, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, c'est de poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous poser la question, mais comment est-ce que Jésus accomplit cette loi? Et enfin, troisièmement, qu'est-ce que ça change pour toi, pour moi, ici, 2000 ans après la venue de Jésus? Qui n'avons apparemment rien à voir avec la loi. Qu'est-ce que ça change? Alors, premièrement, Jésus accomplit la loi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, enfin pour le peuple juif? Cette attente, ce sentiment d'attente de rencontrer la bonne personne, imaginez ce sentiment d'attente à l'échelle d'une nation juive, d'un peuple tout entier, un peuple qui est rempli d'espérance. Voilà certainement à quoi ressemblait l'état d'esprit d'un peuple. Imaginez l'histoire d'un petit garçon, on va l'appeler Lévi, qui a grandi à l'époque, juste avant l'apparition de Jésus. Il est né à ce moment-là, à peu près le même âge que Jésus. Et il a grandi, comme on dirait, il a grandi dans la synagogue. Il a grandi dans la synagogue, il accompagne ses parents tous les ans au temple pour les sacrifices et pour les dons. Et depuis qu'il est tout petit, il va à l'école du Shabbat. C'est pas l'école du dimanche, c'est l'école du Shabbat, où il apprend avec les experts de la loi, avec les anciens du peuple, il apprend ce que dit la loi. Il apprend l'histoire de son peuple. Il apprend comment son ancêtre Abraham a accepté de tout quitter pour suivre Dieu. Il apprend comment Moïse a délivré son peuple par la main de Dieu. Il a libéré d'esclavage pour le mettre en dehors d'Égypte. Il apprend comment David a vaincu des nations et a vaincu des géants. Et surtout, il apprend que son peuple, le peuple juif, n'est pas n'importe quel peuple. C'est le peuple choisi de Dieu. Lévi, il est fier. Oh, il est fier d'être juif. Il a Abraham comme ancêtre, il a David comme ancêtre. Et c'est le peuple de Dieu. Et depuis qu'il est tout petit, Lévi, comme son père, et comme son grand-père, et comme son arrière-grand-père, attend quelqu'un, attend un Messie, attend celui dont la loi parle, attend celui qui a été promis à Adam, qui écrasera la tête du serpent, attend le fils de David, attend quelqu'un qui viendra les sortir de la situation dont ils sont. Parce que c'est un peuple qui attend, mais c'est également un peuple qui souffre, un peuple qui est sous domination romaine. Et Lévi a échappé de peu à l'extermination des enfants. Un roi qui a choisi d'exterminer tous les enfants moins de 2 ans, son grand frère est passé par là. C'était une situation difficile, le peuple est dans une situation difficile, et le peuple attend. Et ce peuple qui attend, tout ce qui lui reste, c'est quoi? Que pour Lévi comme pour les autres, c'est une loi. La loi et les prophètes. Ou aussi appelée la loi. En résumé, la loi. Et la loi, c'est, pour eux, c'est plus qu'un repère. C'est plus qu'un guide pour faire ce qui est juste. Cette loi, c'est une question de vie ou de mort. Ces professeurs à l'école du Shabbat lui ont dit: la raison pour laquelle les Juifs sont aujourd'hui en déportation, sont aujourd'hui sous domination romaine, c'est quoi la raison? C'est parce que nous n'avons pas écouté l'Éternel, nous n'avons pas écouté ce que nous a dit Dieu, qui nous avait dit: « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Autrement dit, pour Lévi, je suis fier d'être juif, on attend le Messie, et tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est la loi. Il faut que je garde la loi si je veux vivre, si je veux avoir la vie éternelle. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que nous avons. Il faut la garder à tout prix. Et il admire les pharisiens, parce que les pharisiens, ils ne font pas les choses à moitié. Ils rajoutent même des règles. Ils font ce que les prêtres font dans le temple, ils le font dans leur vie tous les jours. Ils sont forts, les pharisiens. Non, pour Lévi, les pharisiens, c'est vraiment ceux qui gardent la loi le mieux. Alors Lévi, comme tout son peuple, attend ce Messie qui le délivrera et garde la loi de tout son cœur. Il essaye de suivre les préceptes, il essaie de faire de son mieux, quoi. Et c'est dans ce contexte, après 400 ans de silence, 400 ans où aucun prophète n'a parlé au peuple, près de la grande ville de Jérusalem, qu'apparaissent coup sur coup 2 prophètes, Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Et les foules se mettent à les suivre. Et ils commencent à enseigner: changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Changez d'attitude. Imaginez le tremblement de terre pour Lévi, qui, devenu grand, entend cette nouvelle. Pour le peuple juif, après 400 ans de silence, le peuple de Dieu est là, un prophète surgit encore. Jésus apparaît. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités des personnes qui se présentaient devant lui. Sa réputation, elle fut si grande qu'elle gagna toute la région de la Syrie qui était juste à côté, et les foules commencent à le suivre. Les personnes lui ramènent, toutes les personnes qui sont couvertes de maladies et de douleurs, de toutes sortes, les démoniaques, les paralysés, et il les guérit tous. Les foules se rassemblent. Jésus, le prophète, est là. Après 400 ans de silence, se pourrait-il que ce Jésus soit le Messie promis? Oh oui, il est le Messie. À la vue de ces foules, Jésus monte sur la montagne, comme Moïse était monté sur le mont Sinaï, il y a plus de 1000 ans auparavant. Il s'assit et ses disciples s'approchent de lui. Et il commence à les enseigner. Du haut de la montagne, a proclamé ce qu'on appelle le discours sur la montagne. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Et au milieu de ce discours, il dit cette parole: ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir ces années d'histoire. Imaginez le poids de ces paroles dans le cœur de Lévi. n'importe quelle personne du peuple juif. Je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. Voilà les implications de cette affirmation pour ce peuple. Et il les accomplit. Comment il les accomplit ? Deuxièmement, j'aimerais voir quatre manières dont Jésus accomplit cela et à quel point cette nouvelle est bouleversante, non seulement pour eux, mais les répercussions se propagent jusque ici, dans cette pièce, dans nos cœurs. L'accomplissement de la loi et des prophètes, cette lettre d'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus accomplit parfaitement, premièrement, les prophéties de l'Ancien Testament. Jésus accomplit parfaitement les prophéties de l'Ancien Testament. C'est ce que dit Matthieu, c'est le but de son livre. Là où les trois autres évangiles racontent l'histoire du peuple, Matthieu cite explicitement les prophéties et il l'écrit. Matthieu 1, 22-23, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et elle l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il cite Ésaïe 7, Matthieu 4, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, toute la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée, la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Ésaïe 9, 1 à 2. Matthieu 8, verset 17. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses. Il s'est chargé de nos maladies. Et c'est Ésaïe 53, verset 4. Matthieu 12, verset 17 à 20. « Afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé, et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait triomphé, fait triompher la justice. » Les nations espéreront en son nom. Il cite Ésaïe 42, versets 1 à 4. Matthieu 21, versets 4 à 5. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, vois ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et Ésaïe 62, verset 11, Zacharie 9, 9. Dernière citation. J'en ai sélectionné 6 sur 13. Où il dit explicitement, afin s'accomplisse ce que le prophète Jérémie avait annoncé, Matthieu 27, 9 à 10. Ils ont pris 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites. Et ils l'ont donné pour le champ du potier, comme le Seigneur l'avait ordonné. Le livre de Zacharie au chapitre 11, 12 à 13. Les prophètes, des hommes comme toi et moi, appelés Ésaïe, Osée, Zacharie, Jérémie, des centaines d'années auparavant, ont dit, et Matthieu dit, ainsi s'accomplit ce qu'avait dit le prophète. Dieu a inspiré ces personnes des milliers d'années à l'avance. Oui, Jésus accomplit la loi et les prophètes parfaitement, premièrement parce qu'il a la loi, il accomplit la parole des prophètes, mais il accomplit également, deuxièmement, l'histoire de l'Ancien Testament. Jésus n'accomplit pas simplement les paroles de ces hommes, les paroles des prophètes, il accomplit aussi toute l'histoire d'Israël, il est comme son représentant. Le bébé Jésus est sauvé du massacre ordonné par le roi Hérode. Comme Moïse était sauvé du massacre ordonné par le roi d'Égypte. Et alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Jésus est appelé à sortir d'Égypte comme le peuple d'Israël fut appelé à sortir d'Égypte, libéré de l'esclavage, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Osée 11, verset 1, Matthieu 2, 15. Jésus passe par les eaux du baptême, tout comme le peuple d'Israël a traversé les eaux de la mer des roseaux. Il prend symboliquement tous les péchés que ses concitoyens, baptisés par Jean-Baptiste, laissent au fond de l'eau. Il rentre dans l'eau. Et il passe par sa mère des roseaux pour être ensuite conduit par l'Esprit dans le désert, tout comme l'Esprit a conduit le peuple d'Israël dans le désert. où il est tenté lui aussi pendant 40 jours, tout comme il fut tenté pendant 40 ans. Et là, il médite sur le livre de Deutéronome pour répondre aux tentations du malin. Il montre qu'il avait bien conscience qu'il reproduisait toute l'histoire de son peuple. Et enfin, finalement, vainqueur de la tentation, il monte sur la montagne, il gravit la montagne, tout comme Moïse a gravi le mont Sinaï, et de là, il promulgue la loi du royaume, la nouvelle loi. Il accomplit les paroles des prophètes, il accomplit l'histoire d'Israël, mais il accomplit parfaitement la loi et les prophètes par sa vie sainte, troisièmement. La vie de Jésus était choquante pour les experts de la loi. Eux, ils faisaient de longues prières, ils faisaient le sabbat, ils connaissaient les textes par cœur, certainement. Mais la manière dont Jésus vivait la loi, ça les choquait. Pour les experts de la loi, ceux qui avaient grandi, c'était un pécheur, ils ne suivaient pas la loi. Ils connaissaient certainement les textes par cœur, mais dans le cœur. Ils n'avaient pas compris le cœur de la loi. Ils n'avaient pas compris le fond de la loi. Et vous savez que le cœur, c'est ce qui est le plus important. Hein? Le corps d'un nouveau-né, c'est beau. Mais si le cœur ne respire pas, c'est plus qu'une enveloppe vide. L'enveloppe extérieure est toujours là, mais à l'intérieur, c'est inerte. C'est mort. Et les pharisiens, ils avaient gardé tout l'extérieur, toute l'enveloppe. Mais le cœur de la loi n'était pas là. Jésus va les condamner. Malheur à vous, pharisiens, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Parce que vous versez la dîme de la menthe, la dîme de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. La justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Conducteur aveugle, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Le fond sans la forme, l'enveloppe sans le cœur. Mais Jésus a gardé le cœur. Et c'est parce qu'il a gardé le cœur qu'il accomplissait la loi totalement différemment. Il y avait la justice, la bonté et la fidélité. Et c'est bien notre modèle. Matthieu 22. Et l'un des professeurs de la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus a accompli parfaitement la loi par sa vie sainte, parce qu'il avait la bonté, la justice, la fidélité et l'amour. Pas un seul péché en lui. Il est le juste par excellence. Il est l'exemple parfait de l'accomplissement parfait de la mise en pratique de la loi. Il est l'exemple des sentiments parfaits, de l'attitude parfaite, des actions parfaites, des mots parfaits, de la marche avec l'esprit parfaite. Tout cela en étant pleinement homme. Et c'est parce que Jésus accomplit parfaitement la loi par sa vie sainte qu'il pouvait être également le sacrifice parfait. Et c'est la quatrième manière dont Jésus accomplit parfaitement la loi. Certains passages du Talmud décrivent des scènes de sacrifices. Imaginez les sacrifices. Année après année, combien d'animaux sacrifiés, combien de litres de sang ont coulé, combien de piscines ou de bassines pourrions-nous remplir avec le sang de ces animaux qui a coulé pour couvrir les péchés. Il devait y avoir du sang partout. Certains passages du Talmud décrivent des hommes avec du sang jusqu'aux genoux. Parfois 1,2 million d'animaux abattus en une seule journée. Ils ont retrouvé près de Jérusalem des fosses avec énormément d'ossements. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans la salle de préparation d'une boucherie ou dans un abattoir, mais la comparaison nous aide un peu à imaginer. Pourquoi tant d'animaux sacrifiés ? Pourquoi tant de litres de sang versés ? On lit dans Hébreux 9, verset 22. que d'après la loi, tout est purifié, pas avec du gel hydroalcoolique, mais avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. L'immense quantité de sang versé par tous ces animaux parle de l'immense quantité de péché de toute l'humanité. L'immense quantité de rouge pour couvrir l'immense quantité de noirceur dans mon cœur, dans nos cœurs, dans le cœur de l'homme. C'est bien la première raison pour laquelle tant de litres de sang ont été versés. Et pourquoi autant ? À cause de la quantité de nos péchés, oui, mais également parce que ce sang des animaux est totalement inefficace. Il est impossible, comme il est écrit au verset 4 du chapitre 10 d'Hébreux, il est impossible pour le sang des taureaux et des boucs d'enlever le péché. Ce sang est inefficace. Aucun sang d'animal n'aurait été suffisant pour recouvrir tous nos péchés. Aucun. Alors pourquoi tant de sacrifices ? Pourquoi tous ces sacrifices ? Pour annoncer que le seul sang qui peut effacer tous ces péchés, c'est le sang d'un agneau parfaitement pur, le sang d'un homme, le sang d'un homme venu pour accomplir parfaitement tout le système des sacrifices. Jésus-Christ. Hébreux 9, verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Tous tes péchés, tous mes péchés depuis que je suis né, tous nos péchés, tous les péchés de l'humanité depuis que l'humanité est humanité, tous les péchés qui étaient passés, tous les péchés qui seront futurs, tous portés par un seul homme, Jésus-Christ, sur la croix. Jésus est venu pour accomplir ce que le sang de millions d'animaux ne pouvait pas faire, ce que les milliers de litres de sang d'animaux ne pouvaient pas faire. Le sang d'un seul homme l'a fait. Jésus est venu pour ouvrir de son sang l'immensité de la noirceur de nos péchés. Voici le sens de Noël. Voici le sens de « Je suis venu pour accomplir les lois et les prophètes. Je suis venu pour couvrir les péchés de toute l'humanité par mon sang. » Voici le sens de Noël. Qu'est-ce que cela change pour nous ? Si Jésus accomplit vraiment cette loi, est-ce que les choses peuvent rester comme avant ? Est-ce que les choses peuvent ne pas changer ? Est-ce que nous pouvons encore vivre comme avant ? La première chose que cela change, changeons d'attitude. Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Jésus, au début de son ministère, a fait la queue avec ses compatriotes et leurs péchés. Eux voulaient changer d'attitude, ils allaient dans l'eau. Et comme symbole de changement d'attitude, ils laissaient comme leurs péchés au fond de l'eau. Pourquoi Jésus a fait la queue ? Il n'avait pas un seul péché. Si ce n'est pour rentrer avec eux et symboliquement prendre avec lui, jusque sur la croix, les péchés de ses compatriotes. Est-ce que c'était seulement les péchés de ses compatriotes ? Ou alors les péchés de ceux qui étaient là la veille et du lendemain et de toute l'humanité jusqu'à nous aujourd'hui. Changer d'attitude. Changer d'attitude. La porte de la repentance est toujours possible. Pour les Israélites, pour nous. La porte de la repentance est toujours possible. Changer d'attitude. Tout est encore possible parce que Jésus est venu. On peut encore, aujourd'hui, passer par les eaux du baptême. On peut encore dire, oui, je crois en Jésus. Oui, j'accepte de le suivre. Oui, je change d'attitude. J'abandonne ma vie passée. Ce qui est passé est passé. Je la laisse au fond de l'eau. Et je marche. Je suis Jésus. Changer d'attitude. Changer d'attitude car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus reviendra, ceux qui auront changé d'attitude et qui l'auront suivi, le royaume des cieux est pour eux. Changeons d'attitude. Deuxième implication très pratique, ne pas abandonner la loi et les prophètes. Peut-être que pour nous, l'Ancien Testament, c'est à couper au ciseau. C'est l'histoire d'un Dieu en colère, c'est quelque chose dont on ne veut pas entendre parler. Mais Jésus a commencé par dire, ne croyez pas que je suis venu pour abolir, pour dissoudre, pour retirer la loi et les prophètes. Ne croyez pas. Ça veut dire que pour nous, la loi et les prophètes, elle est toujours là. Et nous sommes appelés à l'écouter, à la lire, à l'étudier. Troisièmement, lire la loi et les prophètes avec les lunettes de l'Ancien Testament. Si Jésus a tout accompli, alors nous ne pouvons plus lire l'Ancien Testament tel que nous le lisions avant. Nous devons forcément la lire avec de nouvelles lunettes. De la même manière que lorsque Jésus est ressuscité, il est apparu à des disciples sur la route de Damas, il leur a expliqué. Et ils se sont dit, il leur a expliqué dans la loi et les prophètes tout ce qui le concernait. Et toute la loi et les prophètes parlent de Jésus. Quand nous lisons la Genèse, de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est 39 livres. Il parle de Jésus et nous ne pouvons pas lire ces livres sans voir Jésus. Et lorsque Jésus leur présentait, leur expliquait tout cela, ils étaient touchés dans leur cœur. Se dire l'un à l'autre, est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ces Écritures parlent. La venue de Jésus qui les accomplit change notre lecture de l'Ancien Testament. Lisons-la avec de nouvelles lunettes. Et j'aimerais finir par cette quatrième application. Très pratique, de si Jésus est venu et s'il accomplit ses sacrifices, la loi et les prophètes, alors nous devons nous aussi mettre en pratique la loi et les prophètes. Pas de la même manière, parce qu'effectivement tout a changé. Et nous devons lire à la lumière du Nouveau Testament les pratiques de la loi que nous devons mettre en pratique. Mais juste après ce passage, verset 17, Dieu encourage ses disciples à mettre en pratique la loi et les prophètes. De la bonne manière. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout soit arrivé. Celui donc qui violera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mettez en pratique la loi et les prophètes, pas de la même manière que les pharisiens, pas la forme extérieure, mais le cœur, la bonté, la justice, la fidélité, l'amour pour Dieu de tout notre cœur, cette affection, l'amour du notre prochain. Comme dit Jacques au chapitre 2, accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, voilà ce que c'est l'application de la loi. Et dans la pratique, suivons l'exemple de Jésus et l'éclairage du Nouveau Testament. Continuons à appliquer cette loi parce que Jésus est venu l'accomplir. Et nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons l'appliquer. La bonté, la fidélité, la justice, l'amour de Dieu. Tout a changé. Tout a changé parce que Jésus est venu. J'aimerais conclure. Dans notre vie, on a tous attendu, à un moment donné à un autre, la bonne personne. La personne de notre cœur, moi c'est ma Chloé. Mais en réalité, nous attendons tous une autre personne. Celle qui changera notre vie. Et la loi et les prophètes, c'est cette lettre de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour toi et pour moi, qui nous parle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce Fils unique pour accomplir la loi et les prophètes, pour mourir sur une croix, accomplir les prophéties, accomplir l'histoire du peuple d'Israël, accomplir les sacrifices, accomplir la loi parfaitement, pour qu'aujourd'hui, nous puissions changer d'attitude et que tout change. Tout change. Pour que nous puissions vivre par la grâce, par la foi, par l'esprit, pas juste en action et en gardant les prescriptions extérieures de la loi comme les pharisiens, mais en amour, en fidélité, en bonté, pour que tout ait changé. Pas un amour juste en parole, mais un amour profond. À Noël, nous ne fêtons pas juste la venue d'un enfant. À Noël, nous célébrons la venue d'un enfant qui a accompli la loi et les prophètes. Parce que Dieu nous aime, il est venu sur terre pour être avec nous. Parce que Dieu vous aime, il est venu sur terre pour être avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et à la fin de son évangile, Matthieu écrit ces paroles de Jésus. Allez, à ses disciples, nous, disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que Jésus nous aime. Jésus est là. Parce que Jésus nous aime. Jésus est venu pour accomplir la loi et les prophètes et couvrir de son sang tous les péchés de l'humanité. Tout peut changer. Je finis par la prière. Mon Dieu, mon Père, merci pour ton amour. Merci de m'avoir aimé. Merci de nous avoir aimés. Merci d'avoir aimé l'humanité. Merci d'avoir aimé cette Église. Merci de nous avoir aimés et d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour tous nos péchés. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Amen.